Nos géographies, Dominique Rousset.
La première chose à faire était de jeter un coup d'œil au pays qu'elle allait traverser. C'est vraiment comme apprendre la géographie, pensa Alice en se mettant sur la pointe des pieds afin d'aller plus loin.
Bonsoir à toutes et à tous, et nous parlons ce soir de géographie des transports. Une branche très étendue de la géographie, il faudra y revenir sûrement, puisqu'il peut s'agir aussi bien de mouvements de passagers, de marchandises, des modes de circulation, mais encore des infrastructures, des nouvelles mobilités, des espaces parcourus, de l'origine et de la destination des déplacements. Les transports qui jouent donc un rôle décisif dans l'aménagement de l'espace et dans la vie, voire la survie des groupes humains. Nous serions dès maintenant dans le temps de l'achèvement de l'urbanisation. D'ici 2050, le monde urbain aura englobé la très grosse majorité des espaces de vie. Est-ce à dire que les 9 milliards d'habitants attendus à cette date se déplaceront essentiellement en intra ou en inter-urbain? Nous allons réfléchir à cette question avec nos invités. Il sera donc question dans cette émission de métropolisation, de concentration urbaine, des moyens d'articuler ces zones denses entre elles au risque de délaisser les autres et des manières bonnes ou moins bonnes d'en assurer la gouvernance. Pour décor, essentiellement l'Europe, ce qui n'empêchera pas quelques échappées utiles vers d'autres grandes métropoles. Bonsoir Antoine Beyer, bonsoir Gaëlle Lesteven et bonsoir Sébastien Bourdin.
Bonsoir. Bonsoir.
Antoine Beyer, professeur de géographie, c'est l'université de Cergy-Paris. Université, beaucoup de travaux, notamment sur les transports de fret. On va y revenir. Gaëlle Lesteven est chargée de recherche à l'école des ponts ParisTech, le NPC. Et vous avez fait une thèse de doctorat qui a attiré notre attention en géographie, bien sûr, en 2012. Les stratégies d'adaptation à la congestion automobile, on va en parler, dans de grandes métropoles, Paris, mais aussi Sao Paulo et Mumbai. Donc de belles comparaisons, un laboratoire ville, mobilité, transport, où vous travaillez aujourd'hui. Et enfin, Sébastien Bourdin est professeur de géographie économique au département d'économie, territoire et développement durable. C'est l'école de management de Normandie. Et nous avions repéré un de ses articles très très utile, Géoconfluence, je le dis en passant, puisque notre émission est neuve, j'y ai beaucoup recours, sur la politique de cohésion vers un horizon un peu lointain jusqu'en 2027. Bonsoir donc et bienvenue à tous les trois. À qui je vais demander d'ailleurs les liens entre géographie économique des transports, enfin quelle définition vous donneriez de la géographie des transports?
Alors, la géographie...
Peut-être que vous n'avez pas la même tous les trois.
Des transports, c'est effectivement l'analyse multiniveau, parce que on a à la fois les infrastructures, les circulations et les représentations qui sont liées. On parle beaucoup plus maintenant de géographie des transports et de la mobilité pour prendre en considération le point de vue des usagers. Alors qu'auparavant, c'était un objet qui était beaucoup plus centré sur la technique et sur les décideurs.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, organiser les mobilités, c'est peut-être un meilleur indicateur pour définir, Gaëlle Lesteven, approche.
Tout à fait, et comme vous savez, récemment, on a une nouvelle loi qui est sortie, qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités, qui remplace la LOTI, la loi d'orientation des transports intérieurs. Donc on est vraiment aussi dans ce changement de perspective avec l'usager au cœur de ces réflexions.
Même question pour vous, Sébastien Bourdin, avec cette échelle des villes dont nous allons parler.
Oui, effectivement, on a beaucoup parlé de la connectivité, de l'accessibilité, de la centralité, voilà. Et puis maintenant, on est en train de travailler maintenant de plus en plus sur les questions liées aux contraintes de localisation et puis aussi aux mobilités qui sont de plus en plus prégnante dans nos quotidiens.
Alors cet horizon 2050, j'ai commencé par le proposer votre discussion. 9 milliards d'habitants, là, ça paraît à peu près encore que, on est encore loin tout de même. Mais est-ce que ça veut dire qu'on sera soit dans un espace interurbain, c'est-à-dire avec des distances de plus en plus courtes d'une ville à l'autre, soit carrément dans un espace intra-urbain? Est-ce que cela influe sur vos travaux? Est-ce qu'on parle maintenant de plusieurs espaces urbains qui vont se connecter ou pas? Ça reste le point de basculement.
Alors c'est vrai, dans une période post-Covid qui s'annonce,
Antoine Meyer,
on sent que les effets et les tendances qui étaient lourdes, notamment en termes d'aménagement français qui poussaient à la métropolisation, seront sans doute un peu bousculés. On sent qu'il y a une demande de plus d'espace et donc peut-être une redistribution de la population moins française dans des territoires autour des métropoles, mais accessibles à des lieux de centralité. Mais en tout cas, sans doute plus étalés que par rapport à ce qu'on avait ou la manière dont se représentait cet effet de concentration jusqu'à présent.
Oui, mais avec une nécessité absolue d'être bien desservie, ces zones dans lesquelles on peut choisir d'habiter hors des villes.
Au moins partiellement. C'est-à-dire que, en supposant qu'on puisse travailler chez soi, faire venir des choses, au moins quelques jours par semaine, oui. Et sinon, pouvoir habiter encore plus loin et à l'écart.
Au fond, limiter un peu les dessertes pour éviter la périurbanisation ou au contraire étendre un réseau de transport public pour que les localités soient rapprochées, c'est peut-être en train d'un petit peu bouger dans les...
Oui,
et l'esprit, les mentalités des uns et des autres, vous l'observez déjà.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a de nouvelles centralités qui apparaissent dans les périphéries. C'est-à-dire qu'on n'a plus une périurbanisation où on aurait un pôle central et des mouvements vers ce pôle, mais qu'on a des centralités secondaires qui apparaissent pour justement éviter ces déplacements contraints quotidiens.
Et sans doute la contrainte aussi environnementale, dont il n'était pas vraiment question il y a encore peu de temps. Va jouer beaucoup Gaël Steven ou Sébastien Bourdin sont deux points dont vous vous occupez l'un et l'autre.
Oui, moi je voulais aussi compléter sur ces premières tendances, sur la peut-être un desserrement de la population, mais plutôt du moins peut-être en Europe, à voir dans d'autres contextes où si on suit les courbes de croissance de l'urbanisation, on a aussi ce double phénomène de renforcement de ces grandes villes dont la population continue à croître de façon très importante et qui pose un certain nombre d'enjeux en termes de déplacement du quotidien. On est dans un phénomène de multiplication des très grandes villes, même si on peut penser que la pandémie qu'on vit aujourd'hui pourrait peut-être freiner. Je ne sais pas si c'est un luxe qu'on peut trouver partout, du moins, ce desserrement.
Et par ailleurs, la congestion automobile reste encore largement majoritaire dans la plupart de ces grandes villes.
Tout à fait. Après, un petit peu de congestion, c'est quand même un bon signe. On a bien vu pendant le confinement, il n'y avait plus de voitures sur la route, il ne se passait plus grand-chose. Donc, un peu de congestion, c'est bien. Trop, on en discutera après.
Sébastien Bourdin, encore un mot là-dessus.
C'est vrai que sur la France, on a eu un gros phénomène de métropolisation avec les réformes territoriales qui se sont succédées. Et on voit bien aujourd'hui, notamment avec le Covid, qu'on a une forme de revanche des territoires qui ne comptaient plus, des territoires qui étaient un peu abandonnés de la politique publique parce que justement on mettait beaucoup d'argent sur la table pour les métropoles. Et donc tout l'enjeu, ça va être d'arriver à mettre en place ce maillage territorial entre d'une part les métropoles qui continuent de grossir et puis les territoires un peu plus ruraux, on va dire, qui ont besoin aussi de se développer économiquement.
Et on va voir avec vous au niveau européen comme la question de la cohésion est aujourd'hui discuté, bousculé en tout cas. Transport européen justement, peut-être quelques chiffres, les densités très fortes que l'on rencontre en Europe ne sont pas forcément l'apanage, c'est très intéressant, des capitales ni même des régions les plus riches. C'est un point peut-être qu'il faut avoir en tête, les anciennes régions industrielles, les anciennes régions portuaires notamment, en France évidemment le Nord-Pas-de-Calais, mais il doit y avoir d'autres exemples, sont des régions très très bien desservies. Ça c'est l'héritage des Trente Glorieuses, je fais un peu d'histoire, Antoine Meyer.
Et du ferroviaire, si on veut.
C'est-à-dire et de l'installation du ferroviaire.
C'est vrai que le ferroviaire qui avait une vocation d'abord de transport de marchandises. La question justement de la métropolisation, c'est comment réorienter des dessertes qui étaient rurales, qui allaient chercher des matériaux de construction ou desservir des usines isolées. À partir des années 80-90, il faut réorienter les flux pour amener la main-d'œuvre vers les métropoles. Et donc là, il y a une disruption en fait entre le réseau existant et les attentes des nouvelles mobilités.
L'un des réseaux de transport les plus denses de la planète, je parle du réseau européen. J'ai envie de donner juste quelques chiffres. Les réseaux ferroviaires et autoroutiers, donc ferroviaires très importants, comptent sensiblement plus d'infrastructures pour 1000 km² que les États-Unis, ce qui n'est pas une vraie surprise, et à peine moins que le Japon. Et autre chiffre, on ne va pas en donner trop, les 10 plus grands flux de fret routier intra-européens de pays à pays, c'est 56% du transport total. Ça nous amène à votre sujet. Antoine Beyer, construire des infrastructures de transport dans l'Union européenne, c'est l'affaire de l'Union européenne, de cofinancer en tout cas ces infrastructures.
De cofinancer, enfin depuis le traité de
Maastricht.
Oui. Auparavant, elle n'avait pas son mot à dire, mais les institutions européennes sont parties prenantes et consacrent une partie de leur budget à ce financement. C'est-à-dire, elles proposent et les... les États disposent. Il y a une sorte d'appel d'offres. Alors, dans un système qui est hiérarchisé, puisqu'on a le core network, le réseau principal, qui reçoit l'essentiel des investissements pour une structuration à l'horizon 2030.
Mais quel est l'objectif de l'Europe ? C'est de repérer, par exemple, les maillons manquants dans des réseaux
Alors, ça a été longtemps,
même nationaux ?
Ça a été longtemps ce fait, c'est-à-dire uniquement intervenir au niveau frontalier. C'est vrai que ce sont des points faibles des réseaux européens. C'est beaucoup plus maintenant dans la continuité de point à point, dans ce qu'on appelle des corridors, qui intègrent complètement les parties nationales de ces ensembles. Là, on a la fameuse carte des 9 corridors des RTET, réseaux transeuropéens de transport, qui devrait être achevé en 2030, mais ça représente plusieurs centaines de milliards d'euros d'investissement, donc il est peu probable.
Vous n'y croyez pas au 2030,
on n'y arrive pas, mais par étapes, les choses se font. Mais c'est surtout aussi une représentation de l'espace, un peu comme une sorte de méga métro, hein, avec des couleurs, c'est lié, qui donne à voir l'unité de cet ensemble, avec l'idée de massification, de résilience des systèmes, et alors bon, on parle pas encore de décarbonation, mais cette idée de transfert modal quand même vers les modes lourds, fluviaux et ferroviaires.
Sébastien Bourdin, vous êtes assez critique parfois sur les articles que j'ai pu trouver de vous, sur ces projets européens d'énormes investissements, on vient de le rappeler.
En fait, dans la plupart des cas, ces grosses infrastructures de transport ont permis de désenclaver des régions entières qui étaient peu développées économiquement, donc on va dire que globalement il y a eu des effets bénéfiques. Mais on a eu aussi, on connaît aujourd'hui aussi des projets qui n'ont pas fonctionné du tout et qui ont coûté très cher à l'Union européenne. Alors, l'exemple de la région Calabria, dans le sud de l'Italie, une autoroute de 400 km qui a coûté 10 milliards d'euros et qui n'est toujours pas finie.
Venue de l'Europe souvent,
venue
de l'Europe, fonds européens, bien
commencé
sûr.
En 1960, toujours pas terminée, des financements européens par-dessus. Et les fonds européens ont été mal utilisés et ont essentiellement servi à alimenter effectivement le crime organisé avec la Drangheta, etc. Donc on voit que cette question des financements européens, elle peut avoir des effets vraiment très bénéfiques, mais attention à la façon dont on les utilise. Et là, il y a quand même pas mal d'exemples en Europe où ça n'a pas toujours fonctionné.
Il y en a en Espagne qui est pas mal aussi, non ? 9 passagers.
En Espagne. Donc c'était un petit peu l'Espagne qui est toujours un des gros bénéficiaires des fonds européens et qui devait dépenser les enveloppes qu'a recevait l'Union européenne pour espérer en récupérer les années suivantes. Tous les barons locaux espagnols ont voulu leurs grosses infrastructures de transport. Et il y a notamment une gare TGV qui a coûté un peu plus d'un milliard d'euros, qui a 9 passagers par jour et qui coûte 18 000 euros en coût de fonctionnement et finalement qui vient juste d'être arrêté l'an dernier. Donc c'était un article d'El País et qui montre les limites de vouloir mettre à tout prix des cathédrales dans le désert, quoi, de mettre des infrastructures de transport en espérant que ça va créer du développement économique. Mais finalement, ça ne crée pas grand-chose. Et donc, du coup, voilà, c'est cette question du développement territorial allié avec les transports et pas faire ça n'importe comment.
Est-ce que ces cas restent quand même marginaux, Antoine Beyer ?
Alors, il faudrait voir en termes quantitatifs ce que ça représente. Mais il faut voir que le financement intéresse aussi les parties centrales de l'Europe, les plus efficaces, hein, que ce soit le corridor du Rhin ou l'aménagement de la vallée de la Seine.
Absolument.
Actuellement, donc il y a aussi ces effets-là. Alors, c'est peut-être moins la politique des RTET que la question du FEDER, du Fonds de développement régionaux, qui peut poser problème et qui sont des investissements au titre de rattrapage. Alors, ces cas, on les a aussi en Crète. Ouais. Alors, il y a certains pays qui s'en tirent mieux que d'autres. Ouais. Par exemple, les investissements qui ont été faits au Portugal ont été, semble-t-il, plus efficaces. Il y a sans doute eu des dérives, mais je pense que c'est pas le point qu'il faut surtout retenir de la politique de transport.
Hein. Gaël, Stéphane, vous voulez ajouter autre chose ?
Oui, en continuité, ce qui est intéressant, après ces grands travaux d'infrastructure, on voit aussi ce qui se multiplie. Alors, avec des budgets moindres, mais quand même relativement importants, des phases d'expérimentation et plutôt d'expérimentation de services. Entre autres, par exemple, je travaille sur des questions d'expérimentation de véhicules autonomes qui se font en lien avec les territoires, mais aussi dans des logiques européennes. Enfin, il y a des discussions entre les différents pays, à différents projets, pour réfléchir à une politique européenne sur ces questions-là. Donc c'est plutôt utiliser l'infrastructure existante, notamment la route, et de voir comment on peut la transformer, l'adapter à des technologies qui sont en cours de développement.
Le travail du géographe, pour qu'on précise bien à quel moment vous intervenez sur ce type de projets. On va revenir avec vous, Antoine Beillard, plus en détail hein, sur un des corridors ferroviaires sur lequel vous avez travaillé. Quel est-il par rapport à, évidemment par rapport aux politiques, mais même de sociologues ou d'enquêtes peut-être d'économie?
C'est de voir comment les choses se distribuent dans l'espace et de voir quelles sont les interactions entre les échelles. Je crois que ça, c'est le point dans la boîte à outils du géographe, les éléments un peu phares. En ce qui me concerne, c'est aussi la construction d'un espace européen des transports qui m'intéresse, notamment dans sa fabrique juridique. La construction européenne, c'est une construction par le droit et par le politique. Et le transport qu'on envisage d'abord sous l'angle de l'infrastructure, de l'investissement, il y a aussi un travail de répartition des pouvoirs et de partage des pouvoirs, de mise en commun. Et c'est cette dimension qui m'intéresse le plus. Donc je dirais la question de la gouvernance et de ce qu'elle signifie et la manière dont elle met en scène également et ce qu'elle nous révèle de la construction européenne.
Avec des évolutions évidemment avec le temps. Hein, vous êtes parti de Maastricht 92, depuis les choses ont pas mal évolué.
Mais l'espace européen des transports, on peut le faire remonter à beaucoup plus tôt. Quasiment, enfin certains, c'est 1815, hein, c'est l'internationalisation de la voie de navigation sur le Rhin. Voilà, le congrès de Vienne, et c'est un premier acte en fait de la mutualisation de ressources de transport.
Sur cet aspect historique, oui, Sébastien Vandal,
vous l'avez approuvé. Exactement, oui, c'est vrai qu'on pouvait le faire remonter effectivement à cette époque-là, et donc du coup, pour répondre aussi à la question sur le regard du géographe, on est là aussi pour regarder comment ces infrastructures de transport et ces transports et ces mobilités modifient notre aménagement du territoire et puis aussi modifient nos pratiques socio-spatiales. Donc nous aussi, en tant que géographe, on peut aller sur le terrain, réaliser des enquêtes pour analyser dans quelle mesure une infrastructure peut modifier nos pratiques du quotidien.
Voilà. Nous parlions de la ville et je voudrais vous faire écouter un très bon spécialiste des circulations de la ville aussi et de la vitesse. Il s'agit de Paul Virilio. Voici ce qu'il dit de l'Outreville.
L'Outreville, c'est la ville-monde, c'est-à-dire la ville qui est localisée partout. Au même instant, la ville de la synchronisation, la ville aussi de la traçabilité, c'est-à-dire de la circulation habitable, où les sédentaires sont partout chez eux, dans l'ascenseur, l'avion, grâce au portable, et où les nomades sont nulle part chez eux, sauf dans la rue, dans les camps, dans les tentes, etc. L'Outreville, c'est esquissé par la gare, le port et l'aéroport. C'est-à-dire que ces plateformes logistiques multimodales, comme on dit, sont les centres-villes d'un phénomène urbain nouveau qui n'est plus métropolitain, concentration d'une masse de population à Shanghai, à Paris, à Mexico, mais d'une période que j'ai appelée omnipolitaine. La police, P-O-L-I-S, devient l'omnipolice, la cité partout et nulle part. Il y a là quelque chose qui se joue, qui remet en cause non seulement l'identité local d'un individu, les frontières d'un État, d'une culture, mais aussi l'habitation. Je rappelle que dans le temps, on disait « élire domicile ». J'ai élu domicile quelque part. C'est-à-dire que la ville était un lieu d'élection. Eh bien là, elle devient un lieu d'éjection. Stop eject. Le monde devient un monde de trajectoire. Comme disait un poète, un tapis de trajectoire.
Que pensez-vous de ces propos ?
Là, il nous présente un peu le modèle de la ville réseau, la ville présente partout. C'est une vision, je pense, un peu technophile, mais il a un peu cette lecture-là de perte de repères. Moi, je pense que la dimension politique reste prégnante. Et la dimension politique, c'est ce qui encadre la technique. C'est, je pense pas, la technique qui dicte l'organisation de l'espace, mais bien la politique et les décideurs. Alors qu'ils peuvent laisser faire, parfois qu'ils s'insurgent, mais il y a cette dimension quand même qui me semble importante, notamment dans les transports, où on a tendance justement à surévaluer le côté structurant de la technique par rapport à d'autres entrées.
Moi, je voulais continuer avec ce que disait Antoine, avec la question de l'identité. C'est vrai que moi, je travaille entre autres sur les services de enfin, les nouvelles mobilités, la voiture partagée, etc. Je pense notamment au VTC, à la Uber, avec ces services qui sont d'une certaine manière assez standardisés, parce que si vous prenez votre smartphone, vous avez une application Uber dans un grand nombre de villes. Et de fait, là, je rejoins complètement Antoine sur l'enjeu du politique, où on a vu des positions qui sont différentes selon les contextes. Est-ce qu'on accepte Uber? Comment on l'intègre? Est-ce que c'est interdit, etc. Il y a le contexte qui rejoue, le politique, et c'est des éléments importants. Et en ce sens, je me dissocie un peu du propos très poétique par ailleurs de Paul Virilio.
Antoine Beyer.
Dans le cas des métropoles régionales françaises, on voit bien l'effet tramway, où on a essayé justement de distinguer l'apparence du tramway, son insertion, et de lui donner une touche très locale, et qui est en même temps un instrument très fort de l'urbanisation et de la reconquête de la ville au sens plein du terme. Donc là, on a bien un instrument technique, mais dans un projet politique, et moins dans une perspective complètement globale et désincarnée que peut être éventuellement un aéroport.
Restons encore avec vous, Antoine Beyer, si vous le voulez bien, pour détailler un peu mieux cet axe nouveau. Hein, cet axe, on a parlé des 9 corridors. Il y en a un sur lequel vous avez travaillé plus spécifiquement, en vous intéressant effectivement à la gouvernance aussi, à la gestion, hein, comment l'Europe s'empare de ce projet. Corridor ferroviaire, donc Rhin-Alpes, ce serait en gros quoi, entre Rotterdam et...
Et Gênes.
Et l'Italie. Voilà,
passant par la Suisse, qui n'est pas membre de l'Union, mais qui est partie prenante, et souvent en avance dans ses projets par rapport aux attentes même de l'Union.
Entre ces deux villes, c'est un axe déjà très important, déjà pour le transport de marchandises.
Ah, c'est l'axe majeur, c'est l'axe central, je dirais, depuis quasiment le XIIIe siècle, le XIVe siècle, avec les franchissements alpins, et ça l'est resté, et les investissements se poursuivent dans ce sens pour que ça reste le cœur économique de l'Europe.
Pourquoi ce corridor? Trop forte densité actuelle ou une croissance des échanges prévisible, parce qu'on va peut-être y revenir?
Ce qu'il faut savoir, c'est que les RTET ont été calibrés pour répondre à la demande 2030. En termes de projection et d'homogénéiser l'offre, que ce soit si on prend le cas ferroviaire pour la longueur des trains, le poids par axe, l'électrification qui est à peu près assurée et les capacités. Et on passe sur une bonne partie du réseau, on va être à 2x2 voies, donc 4 voies, ce qui permet de répondre à des demandes très importantes aussi.
On bien parle pour du fer là. Hein
pour le fer, oui, tout à fait. Pour les voyageurs locaux, interurbains et pour le fret de longue distance.
Ce qui est intéressant, c'est que ça concerne beaucoup de pays. Pour certains, ça facilite le transport des marchandises. J'imagine les Pays-Bas notamment, qui sont très, très actifs sur ce transport. Ça peut répondre à des besoins de l'industrie. Là, je crois que c'est plus le cas de l'Allemagne ou bien pour l'Italie, par exemple, puisqu'on arrive jusqu'en Italie. C'est peut-être lui donner sa part d'accès au marché du Nord, justement, c'est à peu près le...
C'est-à-dire qu'il y a des
échanges... C'est pour ça que tous ces pays-là sont intéressés à des titres divers.
Oui, il y a des échanges très intenses entre le Nord de l'Italie, qui reste très industriel, et le Sud de l'Allemagne et les débouchés que représente l'Europe du Nord. Alors, on peut avoir une lecture par pays, mais il faut aussi avoir une lecture beaucoup plus locale en termes d'investissement régional. Puisque, bon, que ce soit alors les systèmes fédéraux, notamment suisses et allemands, ça se joue dans l'interaction entre le niveau fédéral et la région ou l'État fédéré. Mais localement, les choses se débloquent aussi avec des cofinancements. Donc on retrouve cette articulation multiniveau qui peut être parfois assez compliquée. Et on peut aussi avoir des coalitions d'acteurs locaux qui font pression sur leurs gouvernements nationaux, avec parfois en sous-main l'Union européenne, qui trouve par là des alliés assez naturels en finançant, par exemple dans des projets Interreg, la mise en cohérence des acteurs locaux des régions.
Oui. Et les privés là aussi.
Et le privé, bien sûr, là, hein, que ce soit les armements maritimes qui, eux, organisent les dessertes ferroviaires lourdes, les navettes, les opérateurs ferroviaires, puisqu'il y a aussi cette idée d'ouverture, il y a les anciens acteurs nationaux, et la mise en concurrence dans un cadre européen. Parce qu'il ne faut pas oublier que la libéralisation, elle est un élément clé de la construction de l'Europe.
Je reviens vers Sébastien Bourdin qui nous a dit tout à l'heure effectivement qu'il y avait ces cathédrales dans le désert. C'est pas le cas de ce couloir rhénan.
Ah non, pas du tout là pour le coup.
Celui-là, vous êtes d'accord. Non, celui-là, vous le soutenez.
Ouais, non, là, il y a effectivement, on est dans ce qu'on appelle la dorsale européenne. Parmi les géographes, là, on a identifié ça comme un espace européen économique important et même à l'échelle mondiale. Et donc, là, il y a un enjeu très important d'avoir une accessibilité forte des territoires qui traversent ce corridor.
Et sur le plan environnemental, est-ce qu'on va assez loin? Est-ce que dans les le projet, on a évolué à ce sujet.
Globalement,
Antoine Béhier.
Pour le ferroviaire, oui, ça participe. Alors, il y a bien sûr les risques d'emprise qui restent, à mon sens, limités. Et l'Union européenne favorise aussi l'émergence des nouvelles énergies le long de ces corridors, que ce soit pour la desserte en GNL, donc gaz naturel liquéfié, GNC, comprimé, et demain pour l'hydrogène. Donc, il y a une obligation des États d'avoir des programmes d'équipement de ces axes. Ces axes, c'est bien sûr pour le transport, mais c'est aussi des éléments d'aménagement du territoire européen.
Il faut rappeler quand même que tous les modes sont sollicités dans ce fameux couloir-là. Nous parlons du train.
Voilà, il ne faut pas imaginer que
c'est la voie d'eau le plus utilisée, je crois.
En termes de tonnage, oui, au moins jusqu'à Bâle. Mmh. Et ce n'est pas une ligne, ce sont des faisceaux qui peuvent diverger de parfois quelques dizaines de kilomètres les uns par rapport aux autres et qui permettent d'avoir des alternatives. Et il faut aussi comprendre dans ces réseaux des nœuds, les aéroports, les gares et les chantiers de transport combinés pour le fret.
Pour desservir évidemment toutes les grandes métropoles. Mmh. On fait un petit saut de votre côté, Gaël Lesteven, avec cette étude que vous avez faite. Alors là, évidemment, c'est pas seulement pour désengorger les villes, ces fameux corridors, encore que. Vous avez donc travaillé sur plusieurs grandes métropoles et sur ce que vous appelez la congestion automobile.
Oui, alors là, on revient vraiment aussi pareil dans cette idée de hiérarchisation des réseaux, ce que montrait Antoine Béhier et ce qu'a dit Sébastien Bourdin avec cette dorsale européenne où on condense les flux là où on a des infrastructures capacitaires, on peut dire là où il y a une forte demande. On retrouve ça aussi en ville, dans les grandes villes, on a des réseaux donc possible hiérarchiser avec des axes rapides et puis ensuite des axes de desserte, plutôt local pour du trafic de proximité ou du trafic d'échange. Moi, je m'intéressais dans mes travaux alors plutôt aux pratiques des ménages et aux politiques publiques mises en place pour réguler cette congestion et comment les ménages motorisés, les automobilistes, vivaient au quotidien cette pratique de la voiture dans ces grandes métropoles. Quelle était en fait, d'une certaine manière, leur tolérance à la congestion. Et de fait,
qui parfois bloque complètement une grande ville.
On peut pas dire que c'est bloqué. Ça,
c'est jamais à ce point-là.
Non, les journalistes viennent parler de blocage. Non, mais si vous regardez les citoyens aussi, mais dans les faits, non. C'est juste que le temps que le bouchon va se résorber, ça va mettre plus de temps. Et puis, on peut avoir aussi des phénomènes. Si vous regardez les courbes, souvent on a des phénomènes de pic à l'heure de pointe, donc de réseaux très fortement chargés, et ensuite ça décroît. Et peut-être dans les agglomérations qu'on pourrait considérer les plus embouteillées, on a des phénomènes de plateau où on est toujours dans une situation très chargée. Et du coup, le point où tout bascule, parce que c'est pas grand chose, on est toujours sous tension, si je puis dire. Donc non, ça va pas s'arrêter, ça va juste mettre plus de temps.
Voilà. Alors vous avez choisi trois villes, pourquoi celle-là d'abord?
Ah, c'est une excellente question.
Paris.
Mes travaux, c'était sur Paris, São Paulo au Brésil et Mumbai ou Bombay en Inde. L'idée, c'était d'avoir des très grandes villes, des métropoles, mégapoles, certains disent, avec des niveaux de développement à la fois du réseau viaire et d'équipement des ménages, du taux de motorisation qui soit contrasté. Parce que vous savez, en Inde, on a encore des niveaux de motorisation assez bas, même si les ménages urbains sont plus motorisés que dans le rural. Et au Brésil, c'est à peu près autour de la moyenne mondiale, à peu près d'ordre de grandeur, environ 200, un peu plus, véhicules pour 1000 habitants. En France, beaucoup plus, sauf que l'Île-de-France fait exception, et en particulier Paris et, dans une moindre mesure, la Petite Couronne. Donc, c'était de voir vraiment ces différences et de voir comment les gens réagissaient dans
les stratégies des habitants.
Des habitants et les politiques publiques mises en place aussi différentes. Parce que si vous prenez le cas de Londres, il y a eu le choix, par exemple, d'un péage urbain, ce qui n'a pas été le cas de l'Île-de-France. Par exemple, dans la zone centrale, on a plutôt réduit la voirie disponible qui était à disposition de l'automobile, ce qui a aussi introduit une sorte de politique congestionnelle, de fait. Donc il y a eu des stratégies différentes, tant politiques, et de regarder comment ça se passe auprès des populations, sachant que, évidemment, les choix de localisation des ménages jouent beaucoup, les niveaux de revenus jouent beaucoup, etc.
Antoine Béhier.
La thèse, c'était une thèse avant Waze.
Avant Waze.
Est-ce que ça...
Ah, c'est intéressant. C'est évidemment cette application qui permet à chaque automobile, en principe, hein, de se diriger.
De trouver des alternatives quand il y a des voilà. bouchons. Donc, peut-être ça, les pratiques ont changé. Je ne sais pas si.
Est-ce que certaines villes interdisent aujourd'hui
parce qu'il y a un risque de désintermédiation, en fait.
C'est ça.
Parce qu'il faut savoir que l'automobiliste, il est aussi résident. Donc, il est très content quand il a des itinéraires bis pour aller plus vite. Mais quand c'est d'autres voitures qui passent devant chez lui, ça pose une autre question.
Vous étiez avant Waze.
J'étais avant Waze, mais les enjeux restent quand même relativement similaires et surtout Waze, voilà, il y a des pratiques qui vont différer et puis il y a aussi des logiques. Il y a des villes aussi qui font des partenariats avec Waze. Ceci dit, on reste quand même dans des pratiques du quotidien, donc certains vont préférer une pratique plus routinière, reprendre les mêmes itinéraires. Dans certains cas, même s'il y a Waze, il n'y a pas le choix, en fait.
Mais qu'avez-vous conclu de ces études et est-ce que vous trouvez des points de comparaison avec des situations tellement différentes au départ que Paris, Bombay et São Paulo?
Oui, de fait, ce ne sont pas forcément les mêmes types de populations qui sont concernées par ces questions. Hein. À Bombay, la voiture reste quand même un mode de transport pour les populations aisées. Une partie d'entre elles peuvent avoir un chauffeur, donc ça change tout hein, quand vous pouvez laisser votre voiture et votre chauffeur et que vous marchez. Enfin, j'ai envie de dire, les bouchons, c'est moins embêtant. Et c'est plutôt localisé dans les espaces centraux, même si ça tend à changer. En Ile-de-France, au contraire, si vous regardez une partie des espaces centraux avec pas tout le monde, mais une partie de la population relativement aisée, elle ne va pas être forcément motorisée. Et ça pèse plutôt sur les ménages plus modestes qui, pour accéder à la propriété, ont dû s'éloigner et aujourd'hui n'ont pas forcément accès aux axes de transport collectif parce qu'on est encore dans un réseau, mais on pourra en parler avec les autres invités, hein, mais dans un réseau encore de transport collectif très radial en Ile-de-France. Alors même s'il y a des travaux en cours, entre autres le Grand Paris Express qui devrait permettre une dissociation des flux, mais il faut savoir qu'une grande part des déplacements ont lieu en grande couronne et sont aujourd'hui réalisés grâce à l'automobile.
Donc quand même des évolutions assez différentes qui vont vers progressivement l'abandon de la voiture individuelle, pas forcément de la voiture, parce que je sais que c'est la suite de vos travaux, peut-être qu'on pourra en dire un mot aussi.
Oui.
Sébastien Bourdin, de votre côté, vous connaissiez ces travaux-là?
Non, je n'avais pas du tout lu.
Et allons vers le maritime avec vous, vous voyez qu'on est un spectre assez large. Et là, vous êtes peut-être plus critique avec l'exemple d'un port que vous semblez bien connaître, Le Havre. J'en parle parce que par rapport au corridor ferroviaire, d'abord ça pourrait être concerné, on est sur les projets du Grand Paris aussi, et une position très stratégique, Le Havre, pour capter des flux de transport de conteneurs par rapport à l'Europe, mais vous tempérez l'enthousiasme éventuel de cette ville qui n'est quand même que 58e à l'échelle mondiale pour le trafic des conteneurs et qui lutte, c'est votre expression, pour rester dans le top 10, c'est pas si mal d'ailleurs.
Oui, alors c'est-à-dire
des grands ports européens.
Effectivement, il y a une concurrence portuaire énorme à l'échelle mondiale. Faut savoir par exemple que dans le top 20 des ports dans le monde de trafic de marchandises, il y en a 17 qui sont asiatiques et 14 qui sont chinois.
Ouf.
Voilà, et il y a que le port de Rotterdam qui fait partie du top 20. Et Le Havre qui a...
Donc un seul port européen.
Dans le top 20, ouais.
Dans le top 20, ouais.
Et Le Havre qui a été pendant longtemps dans le top 10 européen est en train de se faire aspirer une grosse partie de son trafic conteneur. Et du coup, bah là, je rejoins ce que Antoine Beyer disait sur l'importance d'avoir un hinterland, un arrière-pays bien développé en termes d'acheminement ferroviaire et en termes de canaux. La bataille des ports se gagne sur la terre, elle se gagne bien sur les aménagements de transport et de ce point de vue
d'acheminement vers les ports, en fait.
Absolument. Ouais. Et de ce point de vue-là, on peut pas dire que Le Havre soit bien doté comparé à d'autres ports européens comme Anvers, Hambourg.
Oui, il faut peut-être rappeler que 20% du commerce international, je parle des marchandises, s'effectue par les voies maritimes. On parle de nos corridors ferroviaires, mais c'est un point important à avoir en tête. Oui, Antoine Beyer.
Il faut dire quand même pour le port du Havre et pour sa défense, qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits récemment, à la fois le chantier intermodal qui permet de desservir le rail et puis la voie d'eau en l'absence d'une écluse pour desservir Port 2000 et qui la remplace visiblement d'une manière assez efficace. Et puis, on a aussi la mise en œuvre d'un corridor qui est à dominante fret, qui part du Havre, qui va jusqu'à Serqueux, Gisors, et qui descend sur la Grande Ceinture. Ouais. Donc on a quand même des éléments où on voit que le Havre fait partie des priorités françaises, enfin du gouvernement français, du fait de l'ancien Premier ministre, mais pas seulement. Hein, il y a ces deux portes d'entrée, peut-être au détriment des autres ports. On a ces Foss et puis le Havre, et le gouvernement pousse beaucoup à structurer autour de ce corridor toute une dynamique logistique, d'activité et d'équipement en information. Parce que je crois que ce qui change beaucoup, on a parlé de Waze tout à l'heure, c'est le pilotage des flux. C'est là où est la vraie question, peut-être plus... ou autant en tout cas que les infrastructures elles-mêmes.
Oui, mais ça c'est pas une prérogative européenne, ça c'est chaque État doit l'organiser sur son propre territoire.
Elle peut, mais dans le cadre du corridor Seine, étant un RTE, peut
ça
bénéficier.
Ça fait partie des couloirs européens.
Peut avoir un cofinancement européen. Et d'ailleurs, on a obtenu, hein, aussi bien pour ce qu'on appelle la Châtière que pour le terminal intermodal.
Ce qui frappe quand même dans cet exemple du Havre, hein, c'est pas pour accabler le port du Havre, mais vous dites, on l'avait, je m'en souviens, inauguré en grande pompe, je crois, un porte-container géant, immense, avec pas mal de critiques de la part des écologistes, hein, sur ces porte-containers d'une taille absolument phénoménale, je me souviens plus quelle longueur. Et donc, il avait été inauguré...
400 mètres.
Ça peut aller jusqu'à 400 mètres.
22 000
sur un seul, seul bateau.
Équivalent 20 pieds.
Voilà. Donc, octobre 2015, le plus grand, un porte-conteneur français inauguré au Havre par le président de la République de l'époque, c'était François Hollande. Et vous dites, de manière un peu ironique, que quelques jours après, un autre porte-conteneur chinois, beaucoup plus grand.
Voilà, déjà été inauguré en disant, nous on est meilleurs. Voilà, donc voilà. Donc non, c'est vraiment la course. Et il y a un vrai besoin. Et donc là, je retrouve vraiment l'idée de la question politique qui est fondamentale. C'est-à-dire que la question des transports, c'est avant tout une question politique. Et donc, qu'est-ce qu'on met comme argent sur la table? Qu'est-ce qu'on met comme moyen? Parce que quand on compare aux autres ports, grands ports européens, Hambourg, Anvers, Rotterdam, il y a des améliorations technologiques et des systèmes d'information portuaire qui sont très développés. AROPA, donc qui est l'association des ports Paris, Normandie, est en train d'investir massivement. On espère que ce soit pas trop tard, mais en tout cas, voilà, il y a des décisions politiques qui sont prises actuellement qui vont dans le bon sens, heureusement.
Oui, mais plus clairement, Sébastien Bourdin, vous pensez que c'est pas la peine d'aller jouer dans la cour des six grands quand on parle de 20 ports, non? Est-ce qu'il faut entendre dans ce que vous dites qu'on ne va pas lutter pour avoir un porte-conteneur encore plus grand que le plus grand des Chinois?
Je ne pense pas que ça soit forcément la lutte. Enfin, il ne faut pas forcément.
Pour être capable de les accueillir, c'est
voilà,
plutôt
mais
ça,
c'est
la
ça,
question.
C'est plutôt la question. Plutôt ça, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que les armateurs, les grands armateurs, investissent massivement et font des choix très stratégiques. Les opérateurs maritimes font des choix très stratégiques sur les ports qu'ils vont sélectionner pour débarquer leurs marchandises. Et donc, à minima, avoir un port qui a les ressources technologiques et les infrastructures suffisantes, ça permettrait de au moins attirer, si ce n'est plus de conteneurs, au moins maintenir le flux de conteneurs actuel. Ouais.
C'est vrai que la question du gigantisme est une vraie question qui avait été analysée. C'est-à-dire que les gains sont pour les armateurs. Et il y a une course de vitesse d'un côté. Et de l'autre, il y a des investissements publics qui sont nécessaires pour les accueillir. Ouais. Et certains parleraient même maintenant de limiter la taille pour éviter que les investissements trop importants soient portés par la puissance publique.
And planes are passing by. They mean a trip to Paris or Rome for someone else, but not for me. The trains and the boats and planes took you away from me. We were so in love. And high above, we had a star to wish upon wish, and dreams come true, but not for me. The trains and the boats and planes took you away from me. You are from another.
certain place took you away. But every time I sing them, my prayer, and if my prayer can cross the sea, the trains and the boats and the
France Culture, c'est nous sommes dans nos géographies en compagnie de Antoine Beyer, de Sébastien Bourdin et de Gaël Lesteven, qui à l'instant nous disait, là on a vraiment des sauts d'une échelle à l'autre, on quitte le porte-conteneur géant et on parlait de Waze sur son petit smartphone. Ce sont aussi ça, les transports dont nous parlons avec vous trois. Et je voudrais revenir sur cette affaire de gouvernance, on reste encore sur le terrain européen. Qui décide quoi et comment organiser les choses entre États, sans oublier la question de la cohésion nationale. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous avez peut-être de quoi discuter, Antoine Beyer et Sébastien Bourdin, parce qu'au fond, si l'on remonte un petit peu plus haut, on est passé d'une égalité des territoires recherchée par le niveau européen à peut-être davantage de compétitivité des territoires. Est-ce que c'est une remarque que l'on peut faire, qui vous paraît justifiée, et en oubliant peut-être au passage ces aspects de cohésion. Est-ce qu'il y a débat entre vous, si j'ai bien lu vos travaux respectifs, Antoine Beyer?
Si on remonte plus loin, c'est vrai que la construction des États-nations au XIXe siècle est intimement liée à la mise en œuvre de réseaux de transport, notamment ferroviaires, qui ont été les tuteurs des échanges, mais aussi, je veux dire, dans l'imaginaire collectif, ça reste un repère dans l'espace national. Pour le ferroviaire notamment, on a une attrition, alors qui est moins forte que celle qu'on imagine généralement, mais au profit des axes majeurs, oui. Et la question, c'est de savoir si l'Union européenne peut reproduire la structuration qui s'était fondée sur le plan national, hein, essayer de par une sorte d'homologie, sauf que on n'a pas de paysans, je dirais, peu cultivés ou incultes qui sont devenus des Français. On a déjà des Français, des Allemands, avec des éléments qui sont hérités, et c'est un peu plus compliqué. Mais on y arrive quand même en créant de nouvelles normes ou en favorisant ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les réseaux quand c'est possible. Alors là, c'est très variable selon les modes de transport.
Mais vous n'opposez pas compétitivité des territoires ou concurrence même entre pays ou voies de circulation avec cohésion des territoires?
Peut-être Sébastien Bourdin. Ouais. En fait, il y a des travaux de géographes Frédéric Santamaria et Bernard Lissal qui ont analysé les documents produits par la Commission européenne depuis une trentaine d'années. Et donc, ils montrent que, alors que on retrouvait une occurrence du mot cohésion très très souvent.
Assez fréquente.
Voilà. Maintenant, on n'est plus sur le mot compétitivité qu'on retrouve de plus en plus dans les discours de l'Union européenne. Forcément, du coup, ça interroge la question de est-ce que l'Union européenne cherche encore à avoir une cohésion de son territoire en entier? Et dans quelle mesure, justement, les infrastructures de transport peuvent-elles contribuer à cette cohésion des territoires? Ou bien on est dans un contexte de compétition entre les territoires où chacun cherche à se développer économiquement en essayant de profiter au maximum des infrastructures de transport qui sont à disposition. Donc c'est un choix aujourd'hui qui est assez délicat pour la Commission européenne, parce que effectivement aujourd'hui il y a eu la stratégie de Lisbonne qui a accéléré cette idée de compétitivité, de concurrence entre les territoires, et là on voit bien aujourd'hui que il y a un besoin de nouveau de cohésion. Ouais.
Mais la stratégie de Lisbonne insistait beaucoup, c'est peut-être une autre manière de parler de compétitivité, mais insistait beaucoup sur l'innovation. C'était l'Europe de la connaissance. Bon, après on peut faire un bilan quelques temps après, mais c'était 2000, c'est bien ça.
Ouais.
Est-ce que c'est tout à fait la même chose? Je veux dire, est-ce qu'on peut encore...
On parle toujours de la question de l'innovation. On parle beaucoup toujours de l'innovation, de la recherche et du développement.
De la connaissance.
C'est toujours un point clé de l'Union européenne, mais on retrouve aussi de plus en plus la question du développement durable, le New Green Deal d'Ursula von der Leyen, etc. Où là, on voit bien qu'il y a aussi un tournant assez majeur pour l'Union européenne, qui souhaite massivement s'engager dans la question du développement durable, et notamment par le développement des mobilités douces, mais aussi dans le développement de technologies en termes d'infrastructures de transport, de technologies, de modes de transport, pour développer des transports qui soient plus vertueux d'un point de vue environnemental.
Ouais. Oui, mais qu'est-ce qui vous paraît souhaitable? C'est plus d'accompagner les régions pour la mise en place peut-être de politiques d'innovation plutôt que de financer de grands projets d'infrastructure. Il y a des choix là au niveau des États, j'imagine.
Ouais. Gaël Lesteven.
Ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'en 2008, entre 90 et 2008, on avait une convergence, c'est-à-dire que les régions périphériques croissaient plus vite. Et après, on a à nouveau une divergence et le Covid renforce cette idée, effectivement, qu'on a une concentration industrielle, par exemple, sur le cœur au détriment du reste. Donc, on a des logiques, je dirais, macroéconomiques. Et ce dont Sébastien Brunin parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté de redistribuer et de créer des infrastructures pour susciter le développement, n'a pas abouti. C'est un peu compliqué de dire on veut redistribuer et alors que finalement, concrètement, ça n'a pas porté ses fruits.
L'accent sur des notions schumpeteriennes d'innovation, hein, vous disiez Sébastien Bourdin, d'économie, de l'apprentissage, etc., qui réoriente en fait l'économie vers des technologies de pointe, c'est bien ça?
Oui, et là justement, là, sur la question des transports, on a plein d'exemples de projets qui ont été financés par l'Union européenne et qui visent justement à développer des technologies innovantes sur des modes alternatifs, la voiture à l'hydrogène, mais pas que.
Les pôles concernés restent quand même les régions centrales.
Mais voilà, effectivement.
C'est pas en périphérie ou sauf exception.
Alors, au détriment d'un objectif de redistribution, de solidarité?
Bah, le problème aujourd'hui, vraiment, vu qu'on a que une partie des régions qui sont capables de produire de la recherche, du développement, innovation de qualité mondiale, bah, le risque, c'est qu'on ait un accroissement des inégalités entre ces régions-là, qui continuent de recevoir plein de financements parce qu'elles sont bonnes dans les technologies, etc., et les régions qui sont en retard, industrielles, en déclin, et qui n'ont pas ni la main-d'œuvre, ni quoi que ce soit pour se développer économiquement.
Politique de cohésion, c'est sur 6 ans, c'est ça? On les reprend tous les 6 ans,
vous en avez suivi plusieurs.
Et la dernière jusqu'en 2027.
C'est ça.
Peut-être la question de la relance, c'est une question que j'adresse
à Sébastien Bourdin.
Est-ce que c'est pas justement un effet de redistribution? Je pense que les Allemands eux-mêmes ont compris que d'être vertueux seul, c'est pas possible. Il faut aussi des marchés qui absorbent. Et en cofinançant la relance, c'est une manière de redistribuer aussi le pouvoir d'achat.
Oui, très clairement. C'est-à-dire que on avait vu pendant la crise de 2000-2009 les Allemands qui grognaient parce qu'ils n'avaient pas envie de payer la dette des Grecs, etc. Mais depuis, il y a quand même un rebasculement et où les pays qui sont contributeurs nets du budget européen disent « bah oui, nous, on a envie de continuer à être contributeurs nets parce que derrière, c'est du développement de régions qui sont en difficulté et qui potentiellement sont des marchés pour demain. »
Oui, toujours
des marchés et puis aussi une stabilité politique.
Et puis la stabilité politique.
Dualité entre contributeurs nets et contributeurs
et
bénéficiaires.
On est un peu éloigné des transports. Mais...
On a un peu quitté les transports. On va y revenir justement à Gaëlle Steven qui revient sur du plus micro, comme elle nous le dit. L'innovation, eh bien, c'est ce dont vous vous occupez en matière automobile, car vous restez convaincu que l'automobile a de l'avenir.
Ah oui, après, de quel automobile parle-t-on? En effet, vous m'interrogez tout à l'heure sur l'automobile, l'usage individuel. L'automobile, en fait, en France, hein, pour les déplacements du quotidien, ça reste de très loin le principal mode de déplacement.
Dans le monde encore davantage ou dans les pays? Parce que vous avez travaillé sur plusieurs, oui.
Ça dépend des pays, oui, bien sûr. Y a, pas partout, mais aux États-Unis, oui, très clairement. Mais pas partout, néanmoins. Ce qui est intéressant aussi de réfléchir, c'est, alors, à la fois, l'innovation, ça peut porter sur le produit automobile, et ça, Sébastien Bourdin, quand il évoquait les politiques européennes d'innovation sur, par exemple, des technologies liées aux énergies, enfin, l'hydrogène, l'électromobilité, avec le développement d'un tout un réseau de recharge, le véhicule autonome, donc plutôt sur le produit, et puis aussi les services, hein, il y a des réflexions sur ces questions, donc plutôt la voiture partagée, du covoiturage à l'autopartage, voilà. Donc on est vraiment sur différentes évolutions. Ça reste encore assez faible en termes de part modale, mais peut-être on peut penser à des développements. Alors aujourd'hui, dans un contexte de pandémie et de distanciation sociale, comme on dit, c'est un peu plus compliqué de voir l'avenir à très court terme de ce type de mobilité.
Voilà. Vous sentez quand même qu'il y a un net intérêt pour cela dans la plupart des villes.
Oui, alors il y a
parce que c'est intéressant, vous travaillez dans des villes riches et des villes de pays beaucoup plus grandes difficultés.
Dans les villes, par exemple, de certaines villes d'Afrique sur lesquelles je travaille, évidemment, la voiture a encore très très bonne presse et Il y a beaucoup de gens qui aimeraient accéder à l'automobile et qui aujourd'hui n'en ont pas les moyens, notamment financiers, pour posséder une voiture et qui recourent à d'autres modes de transport. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi un peu par défaut. Donc on va partager ça, un taxi collectif, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Il y a des développements de plus en plus de réseaux de métro ou de bus à haut niveau de service, on dit bus rapide transit, pour renforcer la capacité. Mais dans un grand nombre de ces villes aujourd'hui, ce qui marche pour pouvoir se déplacer pour la majorité des citadins, c'est bien la voiture partagée, donc le taxi collectif ou les minibus. On est toujours dans cette logique. Donc oui, la voiture sous ses différentes formes a encore un avenir.
La voiture partagée qui commence à avoir du crédit dans les pays plus développés, justement.
Oui, tout à fait.
C'est un retournement intéressant.
Quand on parle d'innovation, on envisage essentiellement la dimension technique, mais il y a aussi la dimension des pratiques, l'innovation des pratiques, ou alors même du low-tech. Et là, souvent, les métropoles des pays du Sud présentent des alternatives qui sont intéressantes.
Tout à fait intéressantes, absolument.
Pas suffisamment connues. Mais il y a beaucoup de choses, que ce soit le bus de Curitiba, le bus rapide qui a connu un fort développement, avec des éléments moins coûteux. Et donc je ne sais pas si d'autres pratiques et tout ce qui est logiciel qui accompagne les modifications de déplacement et des pratiques de mobilité.
Oui, qu'on peut observer au Brésil notamment, je crois que vous avez aussi travaillé au Brésil.
Totalement, le bus de Curitiba, dont parlait Antoine Beillard, c'est vraiment l'idée de faire un métro à moindre coût, parce que vous êtes sur une infrastructure routière et vous construisez des stations, et il y a des bus qui s'arrêtent dans un corridor, qui s'arrêtent, qui prennent les gens en station. Ça a été en plus développé à Bogota, on en a beaucoup parlé, et c'est aujourd'hui ce qui est développé de manière assez massive dans un grand nombre de villes africaines et asiatiques, mais aussi européennes. On a de ce type de réseau de bus ici en France. Bon, alors ensuite, il y a une limite de capacité, parce que ça reste du bus, on met pas autant de monde que dans un métro, mais c'est des éléments intéressants de développement et qui viennent justement d'autres pays.
Moins favorisés, qui nous donneraient un exemple à ce niveau. Quand même, est-ce que tout ceci, et je reviens encore sur les couloirs, les fameux corridors, les 9 corridors européens, mais sur l'ensemble de tout ce dont nous avons parlé, est-ce que la place accordée aux objectifs climatiques vous paraît suffisante? Je rappelle qu'on est à 1%, je crois, la place accordée à la conditionnalité sur le climat. Est-ce que dans tous ces domaines, il y a encore beaucoup à faire?
Oui, il y a encore beaucoup à faire.
La réponse est dans ma question, c'est
Là, je prends un exemple concret, et là, on revient toujours sur la question du politique. On y reviendra sur la question du politique. Là, si on prend l'exemple du péage de Londres, c'est un choix politique de mettre un péage urbain. Bertrand Delanoë a essayé, il a eu même l'idée, il a évoqué l'idée, et il s'est tout de suite fait retoquer. Pourtant, on voit les effets positifs et significatifs, par exemple, sur la pollution à Londres. Il y a pas mal de travaux qui ont montré ça. Donc, du coup, voilà, c'est encore une fois une question très clairement politique qui est posée. Ouais.
Antoine Beillard. Pour les corridors, c'est vrai que l'Union européenne était extrêmement ambitieuse dans ses objectifs de transfert modal. Elle a développé l'idée de comodalité, c'est-à-dire de trouver le mode le plus adapté, mais en ne n'opposant pas les modes les uns aux autres. Et il y a des expériences, alors qui ne sont pas propres à l'Union européenne, mais en Allemagne, par exemple, d'alimenter des camions ou des trains de camions avec des caténaires, donc comme des trains, par voie électrique, par exemple. Donc je pense que ça peut évoluer assez rapidement.
Assez rapidement, sous la pression, comme toujours, des citoyens. Enfin, un mot, dernier mot.
Pour je partage ça. Je viens de coordonner un numéro sur les mobilités automobiles. On se demandait déclin ou survie. Et dans ce qui était ressorti dans les articles, c'était que oui, il y a des alternatives qui existent, il y a des choses qui existent. Mais là encore, c'est la question politique. Il n'y a pas de réelle politique. Il y a des politiques qui restent encore assez ambiguës, notamment sur la place de la voiture dans les grandes villes. Et c'est en particulier lié aussi aux questions de qualité de l'air.
J'ai examiné la carte. C'était une petite ville dans un cirque de montagne au cœur du pays bosniaque. De là, Thierry comptait remonter vers Belgrade, où l'association des peintres serbes l'invitait à exposer. Je devais l'y rejoindre dans les derniers jours de juillet, avec le bagage et la vieille Fiat que nous avions retapée, pour continuer vers la Turquie, l'Iran, l'Inde, plus loin peut-être. Nous avions 2 ans devant nous, et de l'argent pour 4 mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là.
Ça, c'était un petit cadeau pour Gaëlle Lesteven, qui nous avait réclamé ce texte de Nicolas Bouvier. On est quand même dans les transports.
Oui, et puis aussi dans le terrain, parce que la pratique du géographe, comme on l'a dit, c'est les échelles, enfin les différentes échelles, et puis aussi aller sur le terrain, sur les transports, c'est prendre les modes de transport, c'est aller visiter le port du Havre, c'est prendre le corridor ferroviaire. Voilà, c'était aussi cette idée.
Et aller sur le terrain, Nicolas Bouvier l'a si bien fait.
Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
Et donc avec nos trois invités, nous concluons par cette question devenue un peu rituelle dans nos géographies. Être né quelque part, comme le chante fort bien Ayo, est-ce que cela a du sens quelque part? Est-ce que ça reste prégnant pour un géographe? Allez, Gaëlle Lesteven, la première.
Je pense que oui, surtout je venais de vous parler de la pratique du terrain.
Oui.
Et quand je vais sur mes terrains de recherche, par exemple dans des villes africaines et que je rencontre des acteurs locaux, notamment institutionnels, il y a quand même ce bagage qui vient avec moi de quelqu'un qui est né en France. Et c'est pas toujours facile, il y a un travail à faire aussi de se décentrer un peu pour essayer d'appréhender son objet d'étude différemment, essayer de comprendre aussi comment ça se passe sur le terrain, justement.
Donc ça a du sens pour vous, clairement. Sébastien Bourdin.
Oui, bah ça a du sens, ça fait référence à nos identités propres. Et donc souvent, par exemple, quand on part en vacances, une des premières questions qu'on pose quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas, c'est « tu viens d'où ?» Et donc voilà, ça en dit long sur l'importance qu'on accorde à cette ethnie quelque part. Ouais.
L'origine a un certain poids. Moi, je suis né en Alsace. Et donc je me suis toujours beaucoup intéressé à la diversité des territoires, la manière dont les gens vivent et les valeurs qui sont implicites dans ce territoire. Et donc, dans une vallée du Rhin qui vous aura pas échappé, rester un de mes terrains de travail et d'enquête et dans une perspective européenne.
Ce qui peut être à l'origine donc de vos métiers respectifs de géographe, tout cela. On le voit dans ce que vous répondez.
Oui, je crois qu'il faut une passion. Et c'est vrai que les racines peuvent nourrir un imaginaire beaucoup plus large. Et être un moteur des recherches.
Eh bien, merci infiniment à tous les trois. Et merci donc, après ce nouveau numéro de Nos Géographies, merci à notre équipe, c'est Anne-Laure Chanel qui réalise l'émission avec Bernard Daniel, comme souvent. Et on les en remercie, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet et notre stagiaire Zora Vignier ont assuré la documentation. On va renvoyer à vos différents travaux, là j'ai cité plusieurs articles. J'ai cité Géoconfluence et j'y reviens parce que ça me paraît important, vous approuvez les uns et les autres. Et vos différents articles que l'on retrouvera bien sûr sur notre site avec d'autres travaux sur les transports récent et plus ancien. Et un très bon conseil, allez donc sur l'appli Radio France pour les podcasts, car nos géographies, comme tout ce que nous faisons à France Culture, s'écoute nuit et jour. Très bonne soirée à tous, à jeudi prochain.